Bon, nous poursuivons notre série sur la théologie réformée systématique. Nous en sommes à la leçon 7. Et la leçon 7 a pour titre « Pourquoi faire de la théologie? » Alors, il y a comme deux façons d'aborder cette question-là. Il va y avoir à cette question-là, « Pourquoi faire de la théologie? » une réponse qu'on pourrait dire négative. Donc, on va commencer par examiner les objections et les excuses que certains se donnent pour soit négliger ou soit ne pas faire de théologie, ou du moins en faire moins. Et il y a une réponse positive aussi, qui est la réponse positive est très simple. Pourquoi faire de la théologie? Parce que Dieu a parlé. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi nous plonger dans cette lourde tâche de faire de la théologie? Nous avons déjà demandé ce qu'est la théologie, où nous la faisons et quelle théologie nous faisons. Vous êtes sans doute reparti avec une certaine impression de l'entreprise massive que représente l'étude de la théologie. Alors pourquoi s'embêter? Pourquoi ne pas consacrer les heures que nous passons à lire, à réfléchir, à écrire et à parler d'autre chose? La théologie est-elle quelque chose que nous sommes obligés de faire uniquement pour graduer de l'école biblique ou du séminaire biblique? Ou est-ce un travail précieux, un travail vital, un travail délicieux? Pour répondre à cette question, il nous faut l'aborder négativement et positivement. Du côté négatif, nous devons répondre aux objections soulevées contre la théologie systématique. Du côté positif, nous devons nous demander quelle est la raison et notre motivation de faire de la théologie et montrer que cette raison est suffisante pour nous décider à entreprendre ce travail d'étude et de mise en pratique des disciplines théologiques et de le faire avec joie et de le faire avec anticipation. Donc, on va commencer par regarder les objections que certains apportent dans le but de ne pas faire ou de moins en faire de la théologie. Donc, on va regarder les objections et les excuses. La question de savoir pourquoi nous faisons de la théologie pèse fortement sur nous à notre époque. Un certain nombre d'objections sont soulevées contre la discipline de la théologie systématique. Bien que nous les traitions ici individuellement, nous réalisons que dans de nombreux cas, ils apparaissent en combinaison. Chaque objection rejette la théologie comme une étude valable de la Bible pour connaître Dieu et la remplace par une autre forme d'étude qu'elle juge plus importante. Bien que nous ne croyons pas que ces objections soient valables, nous en tenons compte car elles nous avertissent aussi de certains dangers que nous devons éviter. Alors, il y en a 9, on va les regarder une par une. L'objection numéro 1, c'est celle qu'on l'appellerait l'empirisme. Donc, l'empirisme scientifique est cette prétention que seule la science physique, dont les sciences en général, peut contribuer à une connaissance de la réalité. C'est l'erreur de croire que nous pouvons conserver comme connaissance que ce que l'on peut voir, que ce que l'on peut écouter, que ce que l'on peut toucher, qu'est-ce que l'on peut goûter, qu'est-ce que l'on peut sentir. L'empirisme considère la théologie systématique comme une simple opinion religieuse et personnelle et non comme une source d'enseignement ayant autorité. Nous répondons en disant que, premièrement, que l'empirisme est une affirmation de nature philosophique et qu'elle véhicule une folle incohérence en croyant que seules les expériences de laboratoire peuvent expliquer la réalité, et que deuxièmement, que c'est une affirmation très naïve, tout simplement parce que les sciences ne cessent d'évoluer et que les connaissances sont ainsi complètement fuyantes. Et troisièmement, nous devons réaliser que l'empirisme mène à l'idolâtrie. Nous allons aller dans le livre des Proverbes, au chapitre 2, les versets 6 et 7. « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. » Des centaines de fois, les Saintes Écritures utilisent l'expression « ainsi parle l'Éternel ». Donc, chacun part avec un présupposé. L'incroyant doute que Dieu a réellement parlé, tandis que le chrétien véritable sait et croit que le Seigneur a réellement parlé, et ceci particulièrement en son Fils Jésus-Christ. On se rappelle par exemple dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, les versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. L'objection numéro 2, qu'on pourrait appeler le pragmatisme. Le pragmatisme affirme que la seule chose importante est de bâtir l'Église et que nous devons le faire par le moyen de l'évangélisation. Du point de vue des pragmatistes, la théologie est une perte de temps. Selon eux, les croyants doivent se consacrer à l'étude des sciences sociales afin de maîtriser les techniques pour faire croître l'Église. Nous répondons en disant que la théologie est essentielle à une prédication fidèle de l'Évangile biblique. Quand on va dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, les versets 6 à 9, comme on dit, c'est bien beau de faire de l'évangélisation, mais encore faut-il avancer, faut-il annoncer le bon Évangile. Alors, Galates 1, versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » On a aussi un autre passage dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, au verset 4. « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Très important qu'on voit dans ces choses que, dans le fond, annoncer l'Évangile, c'est important, mais encore faut-il bien le connaître et d'annoncer un Évangile qui est fidèle aux Écritures. Donc, ce n'est que dans la mesure où la vérité est reçue, aimée et obéie, que la vraie religion a une place soit dans le cœur, soit dans la vie. Troisième objection, l'écuménisme. Plusieurs affirment que la théologie divise. Dans la pensée écuménique, la théologie contribue à briser l'unité du corps de Christ, donc son Église. Nous répondons qu'au contraire, la sainte doctrine amène la véritable unité. On va regarder quelques passages, Éphésiens chapitre 4, verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Acte 20, verset 28 à 30. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alors, bien entendu, on se doit de ne pas faire de la théologie dans un esprit de division. 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, par revenu à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. L'objection numéro 4, qu'on pourrait appeler le biblicisme anti-intellectuel. Plusieurs accusent les séminaires de théologie d'avoir grandement contribué à créer un esprit de division et d'avoir trahi le véritable esprit chrétien en propageant des idées sectaires et même des hérésies. Ils affirment donc que nous devrions nous contenter de lire, étudier et enseigner la Bible elle-même. Nous répondons que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a commandé, dans Jean 5, 39, de la version Darby, « Sondez les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 4. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Donc, l'ignorance est la mère de l'hérésie. Cinquième objection, ce qu'on pourrait appeler le romantisme. Le romantisme, c'est l'appel aux émotions. L'idée est qu'ils affirment que la piété n'est pas une affaire de vérité dans l'esprit du croyant, mais d'émotions et de sentiments dans le cœur. Nous répondons en citant les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Jean 8, versets 31 et 32. et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » On a aussi Jean 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » L'objection numéro 6, l'agnosticisme. L'agnosticisme, c'est d'affirmer qu'il est impossible de savoir si Dieu existe. Elle conduit ordinairement au scepticisme et au déni de toute connaissance réelle de Dieu. Dans ses formes les plus douces, il affirme que Dieu est tellement grand et qu'il est ainsi impossible de le connaître réellement, et que la théologie ne fait que déformer son infinité. Pour eux, la théologie, c'est de l'arrogance. Nous répondons que la théologie contribue plutôt à nous rendre humbles. Ésaïe, chapitre 66, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Aussi le psaume 119, verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Luc, chapitre 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre, à croire tout ce qu'on dit les prophètes. » Objection numéro 7, le progressisme. Les progressistes affirment que la théologie systématique est trop dogmatique et rigide. Ils prétendent que les chrétiens sont engagés dans un voyage qui ne verra jamais la fin, et qu'ils n'arriveront à aucune conclusion définitive. Le progressisme voit la théologie comme étant prisonnière de la tradition et ne prenant pas ou peu compte des progrès de la science et de la société. Nous répondons que les Saintes Écritures nous demandent de 1 Timothée chapitre 1, versets 13 et 14, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » On a aussi Jude, verset 3. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Et on a aussi Jérémie, chapitre 6, verset 16. « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Non, nous n'y marcherons pas. » Retenons cependant que notre système de théologie systématique ne remplacera jamais la parole inhérente de Dieu. Objection numéro 8, le rationalisme. Le rationaliste dit que toute vérité est déduite des principes logiques et des vérités évidentes dans notre esprit. Notre connaissance est basée, dit-on, sur une pensée raisonnable. Mais le rationalisme considère de nombreuses doctrines chrétiennes essentielles, telles que la Trinité, l'incarnation ou l'expiation substitutive, comme irrationnelles ou illogiques, et donc fausses. Nous répondons que, premièrement, que personne ne peut déduire toute sa connaissance de principes rationnels parce que nous dépendons du témoignage de ceux en qui nous avons confiance, et que, deuxièmement, l'action la plus rationnelle que nous pouvons avoir est de croire ce que Dieu dit parce qu'il est la plus haute autorité. Jean chapitre 3, versets 31 à 34. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Et on avait vu que pour le rationalisme, il y avait trois raisons. Troisièmement, le rationalisme conduit à l'idolâtrie parce que sa recherche est en dehors de la parole de Dieu et qu'elle tente de déifier la raison et la pensée humaine. Ésaïe, chapitre 40, verset 28, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Et dernière objection, c'est le relativisme. Le relativisme affirme qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ils disent que la Bible a plusieurs significations selon ceux qui la lisent. Ils disent que nous n'avons pas le droit de forcer notre opinion aux autres et que c'est une tentative d'oppresser les autres et que c'est alors un acte de haine ou d'abus. Nous répondons que le Seigneur est vérité et amour. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La première épître de Jean au chapitre 4, versets 8 et 9, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Jean, chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Maintenant qu'on a regardé les différentes excuses et les différents arguments ou objections que ceux qui ne veulent pas faire de théologie, ou du moins veulent en faire le moins possible, on va regarder maintenant pourquoi on se doit faire de la théologie. Et la réponse est simple, la réponse positive, c'est parce que Dieu a parlé. Alors, on va regarder plusieurs versets qui nous montrent que Dieu a véritablement parlé. Alors, on l'avait lu tantôt, on le relit, le Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On a aussi un bel exemple du fait que Dieu a parlé, et Esdras, chapitre 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Trois choses importantes, étudier, mettre en pratique, enseigner. Alors, il y a un ordre où tu commences par étudier, tu la mets en pratique et ensuite tu l'enseignes. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu dans ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Donc, la première, la réponse positive, Dieu a véritablement parlé. Dieu a parlé, et bien entendu, il se doit d'être écouté. Alors, on va ici regarder le fameux schéma juif que les jeunes juifs apprennent dès leur enfance, qu'ils apprennent par cœur. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 6. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors, bien entendu, il y a question d'obéissance. Donc, savoir que Dieu a parlé, mais il faut l'écouter. À Luc, chapitre 24, versets 44 à 47. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, excusez, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, Dieu a parlé, Dieu, ça doit être écouté, mais bien entendu, Dieu a parlé, ça doit être obéi. Deutéronome, chapitre 5, verset 1. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Autre raison, Dieu a parlé et nous devons enseigner sa parole aux autres. Deutéronome, chapitre 24, verset 8. Prends garde à la plaie de la lèpre afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les Lévites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Aussi, la raison, Dieu a parlé et nous nous devons de le glorifier. On va regarder quelques passages. Deutéronome chapitre 10, versets 12 et 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous devons adorer Dieu seul et uniquement selon les principes régulateurs. Nous devons adorer selon ce que Dieu a prescrit dans les Saintes Écritures. Le principe régulateur de nos cultes dominicaux, du dimanche autrement dit, et autres, comporte en général les éléments suivants. Lire la parole, là je vous ai mis d'autres versets pour ceux qui téléchargeront les notes. Prêcher la parole, prier la parole, chanter la parole, et vivre la parole par le moyen des ordonnances du baptême et du repas du Seigneur. Alors, normalement, un culte du dimanche devrait inclure tous ces éléments-là et rejeter tout ce qui n'est pas prescrit par les Écritures. C'est ce qu'on appelle le principe régulateur. Souvent, appelés les éléments de l'adoration collective, ces cinq points sont essentiels pour la vie, la santé et la sainteté de toute l'Église locale. Donc, je vois deux applications qu'on peut faire de cette très brève étude sur pourquoi faire de la théologie. La première, rappelons-nous constamment que toutes les objections et les excuses de ne pas étudier la théologie systématique sont boiteuses et déshonorent Dieu d'une manière quelconque. Connaissons les biens et sachons comment les réfuter. Implorons la grâce du Seigneur pour nous donner d'aimer et d'étudier avec persévérance et diligence la théologie systématique et de nous débarrasser de toutes nos fausses conceptions à ce sujet. Combattons aussi notre paresse naturelle par la prière et de saintes habitudes dans nos vies quotidiennes. Deuxième application, nous devons faire de la théologie parce que Dieu a parlé, parce que Dieu doit être écouté, parce que Dieu doit être obéi, parce que Dieu et sa parole doivent être enseignés et que nous devons lui apporter honneur et gloire. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni, aimé et craint pour notre plus grand bonheur et sa plus grande gloire. Amen.